Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 4 mai 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, la France n'a plus de base légale pour opérer au Mali, d'après le ministre malien des Affaires étrangères. 7 civils ont été tués dans le nord-est du Nigeria dans une attaque attribuée aux djihadistes. La Centrafrique juge alarmant l'état de ses finances. Crise ukrainienne, l'Union européenne propose un embargo progressif sur le pétrole russe, mais plusieurs pays du bloc sont inquiets de l'impact de l'embargo. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le procureur général de Conakry, nommé par la junte au pouvoir en Guinée depuis 2021, a annoncé aujourd'hui des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et une trentaine d'anciens hauts responsables sous sa présidence, notamment pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Parmi les personnalités visées par les poursuites et figurant sur une liste communiquée à des journalistes par le procureur Alphonse Charles Wright se trouve, outre M. Condé, renversé en septembre 2021, un ancien président de la Cour constitutionnelle, d'anciens présidents de l'Assemblée, un ancien premier ministre et une foule d'anciens ministres, députés et responsables de services de sécurité. Au Mali, la junte au pouvoir a déclaré mardi soir que la force anti-djihadiste française Barkhane n'avait plus de base légale pour opérer dans le pays après la dénonciation par Bamako des accords de coopération militaire. Le point avec Rosine Monizero.
Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a redit mardi soir sur la télévision nationale que la rupture du traité de 2014 prendrait effet dans 6 mois, mais que celle des accords sur Barkhane et Takuba s'applique immédiatement. À compter du 2 mai, l'accord qui concerne Barkhane et l'accord qui concerne Takuba cessent de produire leur effet vis-à-vis du Mali. Et ça veut dire qu'à partir de cet instant, il n'y a pas de base légale pour la France d'opérer sur le sol malien, a averti le chef de la diplomatie malienne. Bamako a annoncé lundi la fin du traité de coopération en matière de défense, ainsi qu'aux accords fixant le cadre juridique de la présence de Barkhane et forces européennes Takuba, initiées par la France. Les autorités françaises ont jugé mardi injustifié la dénonciation de ces accords. Elles ont aussi contesté que la décision puisse entrer en vigueur dès maintenant. Bruxelles juge regrettable la décision de la junte malienne, d'après Peter Stenholm, porte-parole de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.
L'Allemagne va cesser de former des soldats maliens dans le cadre de la mission de l'Union européenne au Mali, mais elle reste disposée à contribuer à la mission de maintien de la paix des Nations unies si les conditions sont réunies, a déclaré aujourd'hui la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht. J'attends de l'ONU qu'elle crée les conditions nous permettant de continuer à participer à la MINUSMA. Nous sommes disposés à poursuivre notre mandat, a-t-elle déclaré après un conseil des ministres à Meseberg, près de Berlin. Au Nigeria, des combattants affiliés au groupe État islamique ont tué 7 personnes dans l'attaque d'un village dans le nord-est du pays. Les détails avec Claire Morejibou.
Des membres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest sont arrivés à moto et à bord de camionnettes équipées de mitrailleuses. Ils ont pris d'assaut hier après-midi le village de Kotikeri près de Chibok, ouvrant le feu sur les habitants. Nous avons récupéré 7 corps après l'attaque, a déclaré Samson Boulous, un habitant du village. Les djihadistes ont également pillé de nombreux commerces avant de les incendier. L'armée n'a pas confirmé cette attaque. De nombreux habitants ont passé la nuit dans la brousse, selon un responsable local de Chibok, Ayouba Adamson. Cette dernière attaque, survenue hier peu après l'arrivée du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui termine aujourd'hui sa tournée dans 3 pays ouest-africains par une rencontre avec le président Muhammadu Buhari à Abuja, la capitale fédérale.
En Centrafrique, le ministre de l'économie tire sur la sonnette d'alarme. Il admet que la situation des finances publiques est alarmante. Eric Manirakiza.
La situation s'annonce très préoccupante pour la trésorerie de l'État, a affirmé Hervin Doba, évoquant une situation alarmante. L'avenir paraît très incertain pour les finances publiques et l'économie nationale, a poursuivi M. Ndoba. En l'absence des financements extérieurs, l'État n'est plus en mesure d'exécuter le budget initial de manière intégrale, selon le communiqué du ministère de l'Économie, qui évoque également des coupes de 40 à 60% dans le budget de certains ministères sans donner de précision. En juin 2021, la France, ancienne puissance coloniale, avait annoncé le gel jusqu'à nouvel ordre de son aide budgétaire de l'ordre de 10 millions d'euros à la Centrafrique, jugée complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. L'ONU, la France et des ONG internationales estiment que le pouvoir centrafricain a placé le pays sous la coupe de mercenaires d'un groupe de sécurité privée russe, Wagner, qui pille les ressources du pays en échange de son soutien militaire.
L'armée burundaise a déclaré ce mercredi que 10 de ses soldats faisant partie de la force de l'Union africaine ont été tués lors d'une attaque en Somalie. Selon le porte-parole de l'armée burundaise, Floribert Biyekere, 25 autres soldats ont été blessés lors de cette attaque de mardi contre un camp dans le centre de la Somalie et 20 terroristes d'Al-Shabaab ont été tués. Plus de 100 soldats ont été retrouvés selon des sources sécuritaires, ajoutant que l'assaut de mardi était le plus meurtrier depuis une attaque contre une base kényane dans la ville de Kolbiov en 2017. Amnesty International a accusé aujourd'hui une milice financée par le gouvernement en Libye de commettre des crimes et de graves violations des droits humains en toute impunité, créée par décret de l'ancien chef du gouvernement Fayez al-Sarraj en janvier 2021 et placé sous la seule autorité du Premier ministre. L'autorité de soutien à la stabilité est dirigée par l'un des leaders de milices les plus puissants à Tripoli, Abdel Ghani al-Kikli, aussi appelé Geniwa, nommé à ce poste malgré un lourd passé de crimes de droits internationaux et de graves violations, a déploré l'ONG des droits humains.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Commission européenne propose un embargo progressif sur le pétrole et les produits pétroliers russes dans le cadre d'un nouveau paquet de sanctions contre Moscou au moment où l'armée russe frappe des sites jusque dans l'extrême ouest de l'Ukraine. Jacques Aristide.
L'embargo doit être mis en place de manière à permettre d'autres voies d'approvisionnement, d'après Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, alors que le pétrole russe représente environ un quart des importations de l'Union européenne. Toutefois, la Hongrie regrette l'absence de garanties pour sa sécurité énergétique et l'Allemagne dit s'attendre à des perturbations dans son approvisionnement. Sur le terrain en Ukraine, les troupes russes tirent des missiles à travers le pays jusqu'à Lviv, près de la frontière polonaise et jusqu'à une région proche de la Hongrie, jusque-là préservée de la guerre. La situation est confuse à Mariupol, une ville bombardée sans relâche depuis plus de deux mois, où l'Ukraine parle de violents combats. Le Kremlin démente un assaut contre l'aciérie d'Azovstal, le dernier réduit aux mains des Ukrainiens dans cette partie du pays. Le président russe Vladimir Poutine réclame à des alliés occidentaux de l'Ukraine qu'ils cessent leur livraison d'armes à Kiev. Sur le front diplomatique, Moscou boycotte une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui avec le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne, ce qui témoigne d'une nouvelle dégradation des relations entre la Russie et ses partenaires aux Nations Unies.
Et la Russie prépare un défilé militaire dans le port longtemps assiégé de Mariupol pour le 9 mai, jour où Moscou célèbre également la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Interrogé sur les préparatifs de ce défilé du 9 mai, le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu n'a pas explicitement évoqué la possibilité d'un tel défilé à Mariupol. La Finlande, elle, espère une ratification la plus rapide possible par les 30 membres de l'OTAN en cas de candidature seule ou avec la Suède pour rejoindre l'Alliance Atlantique, a affirmé ce mercredi sa première ministre Sanna Marin, mais Helsinki mène aussi des discussions avec les principaux pays de l'Alliance pour obtenir des garanties de protection durant la période d'adhésion qui peut durer plusieurs mois. Citant donc les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Et puis, après plusieurs jours d'intenses tractations, les principaux partis de gauche en France sont parvenus ce mercredi à un accord autour de la gauche radicale en vue des législatives de juin, avec l'ambition affichée d'imposer un partage du pouvoir au président Emmanuel Macron tout juste réélu, emboîtant le pas aux écologistes et aux communistes, le Parti socialiste a annoncé qu'il rejoignait la coalition de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale amenée par la France insoumise, le parti de gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. La gauche espère ainsi obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale française et mettre un coup d'arrêt à la politique menée par le président centriste libéral, réélu, vous le savez, le 24 avril pour un second mandat de 5 ans. À présent, la minute écho avec Mouamadou Mfa.
Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, estime qu'en Éthiopie, entre 5,5 et 6,5 millions de personnes sont en grave insécurité alimentaire en raison de la sécheresse. Selon l'OCHA, la sécheresse actuelle a tué près de 1,5 million de têtes de bétail dans ce pays, dont près de deux tiers en région Somalie. Pour les populations nomades ou semi-nomades de cette région aride et hostile, le bétail est une source essentielle de nourriture et de revenus et constitue aussi toutes leurs économies. L'IATA, Association du Transport Aérien International, a appelé mercredi à traiter d'urgence les causes de l'engorgement de nombreux aéroports au moment où le trafic reprend nettement après plus de deux ans de pandémie de COVID-19. Selon les derniers chiffres de l'IATA, le mois de mars a vu l'activité mondiale du transport aérien atteindre 59% du même mois en 2019, soit la proportion la plus haute depuis le début de la pandémie en mars 2020. Ici aux États-Unis, les entreprises du secteur privé ont créé 247 000 emplois en avril, un chiffre nettement inférieur aux attentes des analystes qui en prévoyait 390 000. Ce chiffre inférieur aux attentes s'explique principalement par la perte de 120 000 emplois au sein des petites entreprises qui embauchent entre 1 et 49 employés, un signe, selon les analystes, des difficultés à recruter de nouveaux salariés.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. La deuxième finale de la Ligue des Champions oppose ce soir le Real Madrid à Manchester City. À l'aller, City l'avait emporté à domicile 4 contre 3. Le vainqueur de la rencontre de ce soir va affronter Liverpool le 28 mai à Paris au Stade de France. L'attaquant de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané, a inscrit hier le 15e but de sa carrière en phase à élimination directe de C1 lors de la demi-finale retour contre l'Espagnol Villarreal. Il devient le meilleur buteur africain de l'histoire en phase à élimination directe de la compétition, dépassant ainsi l'ancien attaquant ivoirien Didier Drogba qui totalise 14 buts selon Afrique Sport. Un groupe de fans de West Ham United attaqué à Francfort dans la nuit de mardi à ce mercredi. Un incident qui survient à la veille de la demi-finale retour de la Ligue Europa prévue contre l'Eintracht Francfort. Selon un porte-parole de la police allemande, une vingtaine d'hommes masqués arrivés dans deux minibus se sont arrêtés devant un bar dans le quartier de Bockenheim où des supporters de West Ham étaient en train de boire et les ont agressés physiquement. La tension est élevée et beaucoup de policiers sont prévus pour la demi-finale retour, le club allemand ayant remporté 2-1 le match aller en Angleterre jeudi dernier. Pour terminer, le maillot que portait la légende argentine du football, Diego Maradona, quand il a crucifié l'Angleterre à la Coupe du Monde de 1986, a été adjudié pour près de 9,3 millions de dollars, battant tous les records pour une pièce sportive de collection, a annoncé la maison d'enchères Sotheby's. Le précédent record pour un vêtement de sport de collection était détenu par un maillot porté par la légende américaine du baseball, Babe Ruth, à la fin des années 1920, vendu en 2019 à 5,6 millions de dollars. La vente se déroulait sur Internet depuis le 20 avril. L'identité des acheteurs n'a pas encore été dévoilée. En 1986, Maradona avait échangé son maillot à la fin du match avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui en est resté propriétaire pendant plus de 35 ans et l'avait prêté au musée de Manchester.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Après le Niger, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est au Nigeria dans le cadre de sa visite de 2 jours dans le pays. Il a appelé à un retour sûr et digne des déplacés. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a commencé sa visite de 2 jours au Nigeria, à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est, considéré comme l'épicentre de l'insurrection de Boko Haram. Il s'est rendu dans des camps de déplacés pour échanger avec les anciens combattants de Boko Haram qui ont déposé les armes et les victimes de l'insurrection. Antonio Guterres a appelé à un retour sûr et digne des personnes déplacées dans leur localité d'origine.
Let's do what we have to do about humanitarian support to these camps.
Faisons ce que nous avons à faire concernant l'aide humanitaire à ces gens dans ces camps de déplacés, mais on doit essayer de trouver une solution pour ces gens. La solution est de créer les conditions de sécurité, de développement pour leur retour à la maison en sécurité et en dignité. Et pendant mon entretien avec les déplacés, c'est ce qu'ils ont dit. Nous ne voulons pas rester ici.
Les autorités nigériennes prévoient de fermer tous les camps de personnes déplacées à Borno d'ici 2026. Mais les agences d'aide sont préoccupées par la sécurité et les conditions sur le terrain dans certaines des communautés vers lesquelles les personnes déplacées retourneront. Le secrétaire général de l'ONU a aussi appelé la communauté internationale à soutenir cette partie du Nigeria en proie à la violence depuis plus de 10 ans pour tenter de résoudre la crise.
The way to address terrorism effectively.
Le moyen de lutter efficacement contre le terrorisme, c'est prévoir pas seulement de l'espoir, mais l'avenir, une réalité. J'appelle la communauté internationale à comprendre ce qui se passe à Borno. Je serai votre porte-parole, monsieur le gouverneur, auprès de la communauté internationale pour un soutien à l'état de Borno.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déposé ce matin une gerbe en l'honneur du personnel et des partenaires de l'ONU qui sont morts dans l'attentat à la bombe contre la maison des Nations Unies à Abuja en 2011. Le chef de l'ONU effectue sa visite au moment où le pays fait face à une insécurité grandissante dans les régions du nord-est, du nord-ouest et du centre suite aux attaques incessantes des gangs criminels contre les populations. Le diplomate et ancien représentant permanent du Nigeria à l'ONU, Joseph Ayalogu.
Je pense que la visite du secrétaire général de l'ONU va rassurer beaucoup de pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest, où les problèmes de sécurité restent un défi. Donc, les pays qui font certaines choses qui posent problème pour leur propre sécurité vont prendre conscience et des moyens pour essayer de gérer ces problèmes.
Cette tournée dans 3 pays ouest-africains s'achève ce mercredi après sa rencontre avec le président nigérien Muhammadu Buhari et le vice-président Yemi Osinbajo à Abuja. Fin mars, plus de 4000 Nigériens qui avaient fui les exactions des groupes État islamique et Boko Haram sont rentrés chez eux malgré l'insécurité et des services quasi inexistants dans la région. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
La junte au pouvoir au Mali a rompu lundi les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Il s'agit de traités de coopération en matière de défense conclus entre les deux pays. Plusieurs autres pays ont des accords similaires avec leurs partenaires. Sur ces accords entre la France et le Mali, Bagassi Koura a joint à Dakar Ibrahima Kane, spécialiste du Sahel.
Il s'agit d'accords que le Mali avait signés avec la France juste au lendemain de l'arrivée de la force servante au Mali pour soutenir le pays contre l'invasion que des groupes djihadistes préparaient contre la capitale.
En 2013.
En 2013. Alors, ce qui est intéressant dans ces accords, c'est que le Mali s'était engagé par écrit à ne pas intenter aucun recours ou permettre aucun recours contre des militaires français pour des opérations qui se seraient déroulées sur le territoire malien. En d'autres termes, tous les militaires français avaient une immunité pour tous les actes qu'ils auraient accomplis sur le territoire malien. Alors, vous voyez que récemment, des vidéos sont sorties, il y a eu des accusations de part et d'autre. Ces accords que le Mali avait signés à la France couvraient justement, si ces actes étaient vérifiés, couvraient justement ce genre d'exactions sur le territoire malien.
Mais est-ce que ce n'est pas le même type de clause que tous les pays du monde ont dans leurs accords de défense?
Bon, mais c'est quand même difficile pour un pays comme le Mali, un pays de droits de l'homme à l'époque qui respecte ses engagements internationaux, parce que n'oubliez pas que lorsque le Mali signait ce type d'accord, le Mali était déjà aussi, avait déjà pris des engagements dans d'autres traités. Pour, je pense, le Mali est apparti à la CPI, et tout cela est contradictoire avec ce que le Mali a signé avec la France. Et donc, ça pose problème au niveau des autorités qui ont accepté de signer ce document-là.
Le Mali dénonce ces accords alors que ça fait déjà près de 3 mois que les Français sont en train de déménager hors du pays. Est-ce que ça a encore de l'importance de les dénoncer à ce stade-là?
Bon, aucune importance. Je pense que c'est un effet de manche de la part des autorités maliennes, c'est juste pour montrer à quel point les relations entre le Mali et la France sont aujourd'hui exécrables. Et donc, ça vient juste conclure, si je puis dire, l'épisode de Serval et Barkhane et montrer qu'aujourd'hui, entre le Mali et la France, je pense qu'au plan militaire, on attendra longtemps pour revoir des relations aussi poussées avec le Mali. Parce que je ne pense pas que d'ici quelques années, on retrouvera de bonnes relations entre le Mali et la France dans le domaine militaire.
Ibrahima Khan, spécialiste du Sahel basé à Dakar au Sénégal.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Le Togo a régressé de 26 places dans le baromètre de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Ce recul intervient après une année éprouvante pour les journalistes togolais, dont certains se sont retrouvés en prison pour avoir écrit sur les réseaux sociaux. Les autorités n'apprécient pas la 100e place occupée par le Togo. Notre correspondant à Lomé, Kossi Wusu, nous en dit plus.
Depuis une dizaine d'années, le paysage médiatique a été modifié par l'apparition de nouveaux médias en ligne. Mais comme pour la presse écrite et l'audiovisuel, ils peinent à se faire une place au soleil. Hélène Doubidji est la patronne de deux médias d'information en ligne.
Nous évoluons dans un domaine très particulier où aujourd'hui les annonceurs n'ont pas encore maîtrisé ce secteur-là. On manque aussi un peu de professionnalisme, donc on a des difficultés en termes de ressources humaines. On n'a pas assez de moyens pour pouvoir payer des collaborateurs et ça fait que tu vas voir des responsables d'organes de presse en ligne qui sont seuls. Ils sont à la fois le directeur, le rédacteur en chef, le journaliste, le reporter.
Le ministre de la Communication et des Médias explique les difficultés de ces médias électroniques par le contexte dans lequel ils sont apparus au Togo. Akoda Ayewada.
Nous n'avions pas encore atteint un niveau de structuration optimale de la presse ordinaire que le numérique fait son irruption et entraîne cette disruption justement du secteur avec les avantages et les inconvénients que l'on peut observer. Le numérique déstructure notre approche de la presse et nous met véritablement en danger.
Le ministre parle de fake news, d'informations inexactes et autant de dérapages qui ont valu des suspensions et même des emprisonnements de certains journalistes. Reporters sans frontières en a tenu certainement compte dans son classement au grand désarroi du porte-parole du gouvernement, Christian Trimoin.
Comment devrons-nous l'interpréter? Comme une classification unilatérale, basée sur des éléments appréciés unilatéralement, dans un domaine dans lequel, malheureusement, nous avions souhaité avoir un dialogue profond. La question n'est pas de remettre en cause la classification qui a été faite, elle appartient à celui qui nous a noté. Mais le danger que ça présente, c'est que progressivement, ça fait d'un gouvernement qui considère que cette procédure de dialogue avec ses organes de notation n'a pas de sens et qui va progressivement créer un désintérêt.
Le journaliste Isidore Akolor, président du patronat de la presse, rend le gouvernement responsable de cette situation et ne peut que s'en prendre à ses propres ratés pour utiliser un terme journalistique.
Le Reporters sans frontières se base sur des indicateurs et ces indicateurs sont fournis par des faits palpables. Si en 2021, on n'a pas eu à retirer le récépissé à des journaux, si en 2021, on n'a pas eu à emprisonner des journalistes, est-ce que le Reporters sans frontières va décaler le Togo de 6 places? Non, je ne le pense pas.
Les associations de journalistes espèrent de nouvelles réformes du code de la presse. Autrement dit, le Togo peut faire mieux. Kossi Wusu Lomé pour VOA Afrique.
Le président américain Joe Biden a fustigé un projet de décision indiquant que la Cour suprême est favorable à l'annulation de l'arrêt historique de 1973, Roe contre Wade, qui a légalisé l'avortement dans tout le pays. La question devrait galvaniser les électeurs avant les élections au Congrès de novembre. Reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Widas-Kourara. Le récit est de Claire Morin-Jibou.
Rien n'a été décidé par la Cour suprême des États-Unis, mais déjà, le président Joe Biden a qualifié le projet de radical.
Cela m'inquiète beaucoup qu'après 50 ans, nous décidions qu'une femme n'a pas le droit de choisir. Cela signifierait que toute autre décision concernant la notion de vie privée est remise en question.
Selon un projet de décision divulgué en premier par Politico, la Cour suprême pourrait dans quelques mois annuler Roe versus Wade, une décision qui a légalisé l'avortement pendant près de 50 ans et laissé la décision aux législateurs des États. Jessica Waters est professeure spécialisée en droit reproductif à l'American University.
La possibilité d'obtenir un avortement en tant que femme dans votre pays d'origine dépend entièrement de l'endroit où vous vivez. Nous estimons qu'au moment où cette décision entrera en vigueur, environ 26 à 28 États seront prêts à interdire l'avortement presque immédiatement.
Les États-Unis sont l'un des quelques 65 pays qui ont légalisé ou décriminalisé l'avortement. Les défenseurs des droits affirment que l'accès aux soins de santé reproductive, y compris l'avortement, est essentiel pour que les femmes participent pleinement à la société. Si l'arrêt Roe contre Wade est annulé, plus de 36 millions de femmes pourraient être touchées. Laura Meyer est la présidente de l'ONG Planned Parenthood à Washington.
Cela affectera de manière disproportionnée les femmes pauvres. Les femmes qui ont des ressources trouveront un moyen de monter dans un avion pour aller ailleurs. Ce sont des femmes pauvres qui porteront le poids de cette cruauté.
Annuler la protection juridique de l'avortement est un objectif de longue date pour les conservateurs. Mais les dirigeants républicains dénoncent la fuite du processus de délibération très secret des juges de la Cour suprême. C'est le cas pour le sénateur Mitch McConnell, le chef de la minorité républicaine.
Maintenant, nous avons au sein du tribunal lui-même quelqu'un d'autre menaçant l'indépendance du tribunal.
La fuite de ce document a galvanisé les pro- et anti-avortements et devrait motiver les électeurs lors des élections de mi-mandat de novembre. Écoutons Carol Smith, une opposante au droit à l'avortement.
Il n'y a rien dans la Constitution qui devrait autoriser le meurtre d'enfants à naître ou né.
Sophia Wolf est en faveur du droit à l'avortement.
Si Roe contre Wade est annulé, je pense que beaucoup de femmes mourront.
Les sondages d'opinion montrent qu'une majorité d'Américains est favorable à ce que les avortements soient légaux dans la plupart ou dans tous les cas.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.